Vous écoutez On lit pour vous.
Des films québécois qui font jaser. Un texte de Marc Cassivi, paru le 29 mars 2026 dans la presse. J'avais l'impression d'avoir été convié à une séance de speed dating cinématographique. Je butinais de table en table, glanant des bribes de conversation autour des films en lice pour le 15e prix collégial du cinéma québécois. PCCQ, déterminé par une soixantaine d'étudiants qui ont plébiscité tard le 27 mars 2026 « Phoenix » de Jonathan Beaulieu-Sire sur un jeune garçon qui peine à communiquer avec son père militaire. Le slogan du PCCQ est « Des films qui font jaser ». Et c'est exactement ce que ces élèves de 57 cégep participants ont fait dans un hôtel du centre-ville de Montréal par groupe de 5, accompagnés d'un prof modérateur. Au menu, les 5 longs-métrages finalistes de cette cuvée. Phoenix, Une langue universelle de Matthew Rankin, Amour apocalypse d'Anne Aymon, Ville et misérable de Jean-François Leblanc et Des chats sauvages de Steve Patry. La dernière table ronde à laquelle j'ai assisté annonçait, sans que je le sache, le verdict à venir en fin de soirée après les délibérations autour d'un tiercé final choisi par quelques 1800 élèves. Phoenix s'est démarqué, selon nous, pour la justesse d'un sujet dont on parle peu, la préparation à la guerre et son impact sur l'entourage des soldats, m'a expliqué Marina. C'est très juste et réaliste, a ajouté Olivier, qui habite près de la base militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a beaucoup de non-dits. C'est délicatement porté. À une table voisine, Kenza, qui étudie au collège de Maisonneuve, n'était pas du même avis. « Je pense que la nostalgie a pris trop de place. Serait pris un peu plus de distance. » Au cégep André Laurendeau, on a aussi choisi Phoenix, mais Nathan, le représentant, a préféré Des chats sauvages, un documentaire en noir et blanc sur un ermite qui vit dans le bois avec ses chats. J'étais invité pour la première fois à assister à cette discussion annuelle entre étudiants de tous les coins du Québec. Il se prénomme Merrick, Miley ou encore Marois. Ézéchiel a fait 10 heures de route depuis Gaspé avec 2 profs pour y être. Un groupe hétérogène, à l'image de la jeunesse québécoise, avec des extravertis et des introvertis, des urbains et des ruraux, des enfants d'immigrants, ainsi que quelques étudiants neuroatypiques ou non-binaires. Il y avait des tables rondes où les débats étaient plus enflammés, d'autres où le prof devait davantage tirer les verres du nez. Certains étudiants y allaient d'analyses techniques poussées, d'autres utilisaient des mots savants comme « diégèse », mais je n'ai vu personne soupirer. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse devant une œuvre d'art. Je les ai surtout trouvés éloquents, pertinents, passionnés. Assez pour me redonner foi en la cinéphilie d'une jeunesse que l'on aime caricaturer comme amorphe, désengagée et se désintéressant du cinéma. Un film de fiction, c'est quoi sinon une œuvre qui permet d'échapper à la réalité, se demande Angélique. Le documentaire, c'est le contraire. Bien sûr, les étudiants de cette plénière ont été triés sur le volet et ne sont pas représentatifs de la cinéphilie du cégepien moyen. Il reste que leurs commentaires nuancés et respectueux, tout sauf complaisants, ont enrichi ma propre vision de ces films que j'ai parfois eu à critiquer dans la dernière année. Les organisateurs avaient prévu asseoir à la même table des élèves de différentes régions et disciplines. Ce ne sont pas tous des étudiants en cinéma. Elliot, du cégep de Baie-Comeau, s'est reconnu dans la scène de pêche d'Amour Apocalypse qui propose un retour aux sources, à la beauté de la nature et de l'être humain. À une table voisine, Renaud a aussi pris le parti de ce film poignant qui traite de sujets d'actualité comme la santé mentale, l'éco-anxiété et comment s'aimer quand on craint la fin du monde. Alice, du cégep de Granby, a adoré une langue universelle qui nous plonge dans la peau d'un nouvel arrivant qui n'a pas les référents, pas les codes, en nous permettant de mieux comprendre les défis de l'immigration. Sa voisine Audrey était moins enthousiaste. Je dirais que ça a été l'expérience la plus neutre de ma vie, a-t-elle ironisé en rappelant une délicieuse réplique du film. J'ai souri. Sa voisine de table, Vénos, qui a des origines iraniennes, a été impressionnée par la maîtrise du persan de Matthew Rankin. Mais j'aurais aimé entendre plus de français, comme c'est un film destiné aux Québécois, a-t-elle ajouté. Je n'ai pas pu m'empêcher, malgré mon statut d'observateur passif, de leur parler des clins d'œil du film au cinéma iranien et winnipegois. J'étais une mouche sur le mur, comme disent les Anglos, mais une mouche qui parle, comme dans un film de David Cronenberg. À cette table, il y avait aussi Christopher, un Américain francophile de l'Université de Fordham à New York, invité spécial de cette 15e édition du PCCQ, tout comme Nicolas, de l'Université du Minnesota. « J'habite plus près de Winnipeg que vous », a rappelé à ses voisins Nicolas en parlant d'une langue universelle. Un film qu'Étienne, du cégep Lionel Groulx, a perçu comme une lettre d'amour, mais aussi une critique de la manière dont le Québec traite ses immigrants. Ce à quoi Cédric, du cégep de l'Outaouais, a ajouté « Ça met en lumière comment on peut ne pas se sentir représenté par son gouvernement, surtout à notre âge. » Je suis parti, ragaillardi et optimiste. Il suffit parfois, pour se rassurer, de tendre l'oreille. C'était « Des films québécois qui font jaser », un texte de Marc Cassivi, paru le 29 mars 2026 dans La Presse.
Le bien-être des élèves québécois s'améliore un peu, malgré des inégalités. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 18 mars 2026 dans Le Devoir. Le bien-être des élèves s'améliore au Québec, mais des inégalités importantes persistent, montrent les résultats d'un grand coup de sonde dévoilé mercredi. Car les élèves à besoins particuliers et ceux fréquentant l'école publique sont surreprésentés parmi les jeunes vivant plus de tristesse et d'anxiété sociale, étant victimes d'intimidation, et faisant un usage problématique des écrans. Du 2 au 13 février 2026, un peu plus de 12 000 parents d'enfants fréquentant des écoles primaires et secondaires de la province ont été sondés dans le cadre de la 3e édition de l'enquête sur le bien-être des familles québécoises, supervisée par Mélissa Généreux, professeur titulaire à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Globalement, cette enquête permet de noter une très faible progression de la qualité de vie des enfants au Québec, qui a été analysée à partir des réponses à une série de questions posées à leurs parents. Celles-ci portaient notamment sur la tristesse et la solitude ressentie par les enfants, de même que leur niveau d'énergie et la relation qu'ils entretiennent avec leurs parents et leurs amis. Le diable est toutefois dans les détails. Ainsi, les résultats de ce sondage, rendu public mercredi, font état d'une proportion nettement plus élevée d'élèves à besoins particuliers ayant une qualité de vie considérée comme faible sur la base des indicateurs analysés. Au secondaire, 24 % d'entre eux seraient dans cette situation, contre 9 % pour les élèves qui n'ont pas de besoins particuliers. Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage sont également surreprésentés parmi ceux ayant un usage problématique des écrans qui interfère avec leurs activités sociales et génère des problèmes familiaux. Ils sont aussi plus susceptibles de vivre de l'anxiété sociale et de subir de l'intimidation à l'école, selon cette enquête. Globalement, la qualité de vie, puis aussi la santé mentale perçue, est plus défavorable au niveau des enfants à besoins particuliers, confirme en entrevue Mélissa Généreux. Cependant, on ne peut pas attribuer ça nécessairement au milieu scolaire, puisque plusieurs facteurs socio-économiques pourraient contribuer à cette situation, selon la professeure. L'école à trois vitesses. Le sondage fait par ailleurs état d'inégalités dans le bien-être des élèves associés au système de l'école à trois vitesses dans la province, relève Mme Généreux. Ainsi, 18 % des élèves suivant un parcours scolaire régulier au secondaire auraient une santé mentale passable ou mauvaise, un pourcentage chutant à 9 % pour ceux inscrits à un programme pédagogique particulier et à 7 % pour ceux qui fréquentent une école privée. Dans la même veine, le sondage fait état de 15 % d'élèves du secondaire public régulier subissant de l'intimidation et de la discrimination sur une base régulière. Un pourcentage de 3 fois plus élevé que celui de 5 % rapporté par les parents d'élèves fréquentant une école secondaire privée. Les élèves qui sont au secteur public, qui n'ont pas accès à des programmes ou à des volets particuliers, semblent être confrontés à plus de difficultés et d'enjeux sociaux en général, constate ainsi la présidente de la Fédération des comités de parents du Québec, Mélanie Laviolette. Elle espère que ce coup de sonde contribuera à susciter une réflexion sur les mesures à prendre pour améliorer la réussite scolaire et le bien-être des élèves, notamment dans les écoles publiques. C'était « Le bien-être des élèves québécois s'améliore un peu, malgré des inégalités », un texte de Zachary Goudreau, paru le 18 mars 2026 dans Le Devoir.
Un grand miroir dans le ciel nocturne. Une start-up veut lancer un miroir spatial. Un texte de Kenneth Chung et Hiroko Tabuchi du New York Times paru le 16 mars 2026 dans Le Devoir. Une start-up américaine veut illuminer la nuit avec 50 000 grands miroirs en orbite autour de la Terre, renvoyant la lumière du soleil vers la face nocturne de la planète afin d'alimenter des panneaux solaires après le coucher du soleil, d'éclairer les équipes de secours et d'illuminer les rues des villes, entre autres. Des scientifiques soulèvent des questions sur le projet. C'est une idée qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Mais l'entreprise Reflect Orbital, basée à Hawthorne, en Californie, pourrait bientôt obtenir la permission de lancer son premier satellite prototype doté d'un miroir de 18 mètres de large. La société a déposé une demande auprès de la Federal Communications Commission, FCC, qui délivre les licences nécessaires au déploiement de satellites. Si la FCC l'approuve, le satellite de test pourrait être mis en orbite dès cet été. La période de consultation du public sur la demande s'est terminée lundi 16 mars 2026. Nous essayons de construire quelque chose qui pourrait remplacer les combustibles fossiles et vraiment tout alimenter, a déclaré Ben Novak, directeur général de Reflect Orbital, dans une entrevue. L'entreprise a levé plus de 28 millions de dollars auprès d'investisseurs. ce n'est pas la première fois que quelqu'un envisage de le faire. En 1977, un ingénieur en fusée d'origine allemande, Kraft et Herrick, avait proposé des miroirs spatiaux pour prévenir le gel des cultures et éclairer les zones sinistrées. Et en 1993, un satellite russe équipé d'un miroir d'environ 24 mètres de diamètre avait brièvement réfléchi un mince faisceau de lumière solaire sur la planète dans le cadre d'une expérience visant à prolonger les heures d'ensoleillement dans l'Arctique sibérien. L'idée est controversée. Nous n'avons tout simplement pas encore de processus réglementaire pour ce type d'activité spatiale nouvelle, a déclaré Rui Dalal, astronome et directrice des politiques publiques à l'American Astronomical Society. Les opposants affirment que les miroirs pourraient distraire les pilotes d'avions, perturber les observations astronomiques et interférer avec les rythmes circadiens, ces cycles lumière-obscurité qui indiquent aux êtres humains, aux animaux et aux plantes quand se réveiller et dormir, quand fleurir, quand migrer et ainsi de suite. Si les animaux étaient perturbés par cette lumière supplémentaire, ils pourraient se reproduire au mauvais moment, quand la nourriture est rare, a indiqué Martha Hotz Vitaterna, professeure de recherche en neurobiologie à l'Université Northwestern et co-directrice du Centre de biologie du sommeil et des rythmes circadiens. Les insectes en hibernation et les oiseaux migrateurs pourraient eux aussi être désorientés. Une lumière diffusée au mauvais moment de la journée pourrait également provoquer la floraison de plantes en l'absence de pollinisateurs actifs, a précisé Martha Hotz Vitaterna. Les implications pour la faune, pour toute forme de vie, sont énormes, a-t-elle dit. Pas d'évaluation environnementale. Mais ce ne sont généralement pas des préoccupations que la FCC prend en compte lors de l'examen des demandes de satellites. L'agence vérifie plutôt que les communications radio d'un engin spatial ne créent pas de problème d'interférence pour les autres et que l'engin sera mis hors service de manière sécuritaire en fin de vie opérationnelle. La position de l'agence est que les activités dans l'espace, qui, par définition, ne se déroulent pas sur Terre, ne sont pas soumises à une évaluation environnementale. L'agence n'a pas répondu à une demande de commentaire concernant la demande de Reflect Orbital. Le prototype de Reflect Orbital, qui sera à peu près de la taille d'un mini réfrigérateur de chambre d'étudiant, est presque terminé. Une fois dans l'espace, à environ 650 km d'altitude, le satellite de test déploiera un miroir carré de près de 18 mètres de côté. Celui-ci renverrait la lumière solaire pour illuminer une zone circulaire d'environ 5 km de diamètre à la surface de la Terre. Une personne levant les yeux verrait dans le ciel un point lumineux, à peu près aussi brillant qu'une pleine lune. Deux autres prototypes pourraient suivre dans l'année. D'ici la fin de 2028, Reflect Orbital espère lancer 1000 satellites de plus grande taille, puis 5000 d'ici 2030. Les plus grands miroirs sont prévus pour atteindre près de 55 mètres de large, réfléchissant autant de lumière que 100 pleines lunes. L'entreprise indique que son objectif est de déployer la constellation complète de 50 000 satellites d'ici 2035. Combien coûte la commande de lumière solaire la nuit? Ben Novak a indiqué que l'entreprise facturerait environ 5 000 $ l'heure pour la lumière d'un seul miroir dans le cadre d'un contrat annuel d'au moins 1 000 heures. L'éclairage pour des événements ponctuels et des urgences, qui pourraient nécessiter de nombreux satellites et une coordination plus importante, serait plus onéreux. Pour les parcs solaires, il envisage de partager les revenus tirés de l'électricité générée grâce aux heures d'ensoleillement supplémentaires. Ben Novak a affirmé que les satellites de Reflect Orbital pourraient contribuer à réduire la combustion de combustibles fossiles et ainsi ralentir les changements climatiques. L'une des principales faiblesses de l'énergie solaire est que la production d'électricité s'arrête au coucher du soleil. un ciel déjà pollué. Les astronomes ont tiré la sonnette d'alarme quant aux répercussions sur leurs observatoires de la multiplication rapide des satellites qui sillonnent le ciel nocturne. La constellation de près de 10 000 satellites Starlink, exploitée par SpaceX, la société d'Elon Musk, produit désormais régulièrement de brillantes traînées lumineuses sur les photographies de l'univers prises par les télescopes au sol. Michael Brown, astronome à l'Université Monash en Australie, a calculé que la lumière solaire réfléchie par un seul satellite se répartirait sur environ 46 km carrés. Cela signifierait que le nombre de photons atteignant un panneau solaire représenterait environ 1 sur 140 millième du taux observé en plein midi. Même avec des miroirs de 55 mètres de large, il faudrait plus de 3000 satellites pour produire l'équivalent de seulement 20% du soleil de midi sur un seul site, a écrit Michael Brown dans son commentaire à la FCC concernant la demande de Reflect Orbital. Avec 87 000 satellites, l'entreprise pourrait fournir, au mieux, 20% de l'ensoleillement de midi à 27 sites, a-t-il précisé. Il estime qu'un réseau de satellites à miroir ne constitue pas un moyen efficace pour augmenter la production d'énergie. Je pense que cette idée refait surface en raison de sa simplicité et de son élégance apparente, a déclaré Michael Brown en entrevue. Mais quand on commence à faire les calculs, et ils sont assez simples à faire, on constate qu'il y a beaucoup de problèmes sérieux. Gaspar Backus, astronome à l'Université Princeton, a remis en question l'affirmation de l'entreprise selon laquelle la lumière réfléchie ne serait visible que dans la zone ciblée. La lumière est inévitablement diffusée par les particules de l'air, et le halo produit par le faisceau pourrait éclaircir le ciel nocturne sur des kilomètres supplémentaires. Un effet bien connu avec l'éclairage public, même des petites villes, a-t-il indiqué. Ben Novak de Reflect Orbital a répondu que l'entreprise avait étudié la question de la diffusion dans des simulations et que les effets n'étaient pas aussi graves que le décrivaient les critiques. Le satellite de test permettra de vérifier cela, a-t-il dit. Nous prévoyons de montrer exactement ce qui se passe avec de vraies mesures dans le monde réel, à partir de notre vrai satellite, a-t-il affirmé. Ça va aider énormément. On ne peut pas falsifier ça. C'était un grand miroir dans le ciel nocturne. Une start-up veut lancer un miroir spatial. Un texte de Kenneth Chang et Hiroko Tabuchi du New York Times, paru le 16 mars 2026 dans Le Devoir.
Les cotes d'écoute officielles, de nouveau publiées. Un texte d'Étienne Paré, paru le 24 mars 2026 dans la presse. À compter du mardi 24 mars 2026, les cotes d'écoute des émissions de télévision les plus regardées au Québec seront de nouveau publiées toutes les semaines. Les données officielles n'étaient plus diffusées depuis 2022. Numéris, l'organisation qui mesure les habitudes d'écoute au pays dévoilera chaque mardi le top 30 des émissions les plus populaires au cours de la semaine précédente chez les Québécois francophones. Ceux qui ont regardé les émissions en direct ainsi que ceux qui les ont visionnées par enregistrement au cours de la semaine seront comptabilisés. Les données confirmées excluent toutefois pour le moment le rattrapage sur les plateformes en ligne. Par exemple, si vous suivez l'actuelle saison de Big Brother Célébrité sur Crave ou si vous regardez les épisodes d'Indéfendable sur TVA+, après leur diffusion, vous n'êtes pas pris en compte. Les cotes d'écoute confirmées demeurent, cela dit, un très bon indicateur pour mesurer le succès ou non d'une émission. C'est d'ailleurs cette donnée qui est prise en considération par les annonceurs au moment d'acheter de l'espace publicitaire à la télé. La télévision linéaire reste dominante, surtout au Québec, où on aime beaucoup notre télé. Les données confirmées prennent en compte plus de 70% de toute l'écoute, précise Catherine Malot, vice-présidente principale chez Numéris. À la demande des diffuseurs. Il y a 4 ans, Numéris avait cessé de publier sur son site le classement des émissions les plus regardées à la télé. Cette décision faisait suite au lancement de la mesure VAM, V-A-M, qui s'intéresse à l'écoute vidéo en ligne. Numéris voulait éviter qu'il y ait confusion avec la mesure TAM, T-A-M, utilisée pour chiffrer les codes d'écoute à la télévision. Aujourd'hui, c'est à la demande des diffuseurs que Numéris recommence à diffuser le palmarès hebdomadaire des émissions les plus regardées. Car en l'absence de données confirmées publiques, ce sont beaucoup les données préliminaires qui circulaient dans les médias et sur les réseaux sociaux. Or, celles-ci regroupent seulement l'écoute en direct et les visionnements par enregistrement dans les 24 heures suivant la diffusion. Dans l'industrie, les codes d'écoute préliminaires ne sont plus considérés comme un indicateur fiable, surtout pour les émissions de fiction. Ces chiffres, souvent très petits, pouvaient envoyer le message que le déclin de la télévision traditionnelle est plus important par rapport à ce qu'il en est réellement. Il y avait beaucoup de données qui circulent provenant de différentes sources, mais il y a un appétit pour avoir des données officielles. Plus il y aura de données fiables qui circulent, le mieux ce sera. Ça permettra d'uniformiser le discours sur la place publique à l'heure où l'industrie locale de la télévision est mise à mal, résume Catherine Malot. À quand un portrait plus complet ? Pourra-t-on un jour mesurer également l'écoute sur les plateformes pour avoir un portrait encore plus complet des habitudes d'écoute au Québec ? Nielsen, l'équivalent de Numéris aux États-Unis, est capable de mesurer le nombre d'Américains qui ont regardé dans la même semaine The Pitt sur HBO, Max, ou Love is Blind sur Netflix. Chez nous, Numéris n'utilise pas la même méthodologie. On peut savoir grâce à la mesure VAM combien de temps en moyenne les Québécois passent sur Netflix, Prime Video ou Illico Plus. Par contre, on ignore quels sont les contenus qu'ils ont regardés. Si l'industrie veut ça, on va le faire. Mais pour développer cet outil-là, il faut du développement. Et pour faire du développement, il faut que ces plateformes-là travaillent avec nous, a laissé savoir Catherine Malot de Numéris. Numéris est un organisme sans but lucratif, financé à la fois par les diffuseurs et les annonceurs. Au Québec, sa mesure TAM, qui permet d'estimer les codes d'écoute à la télé, repose sur un échantillon d'environ 900 foyers qui est représentatif de la population. C'était « Les codes d'écoute officiels, de nouveau publiés », un texte d'Étienne Paré, paru le 24 mars 2026 dans la presse.